Au jeune duc d'Aquitaine, il écrivait ceci.
Pour faux prétexte, notre compagne, votre mère, se retire de nous. À cause de notre cher et féal Hugh de Spencer, qui toujours nous a si bien et si loyalement servi. Mais vous voyez, et tout chacun peut voir, couvertement, notoirement, et s'égarant contre son devoir, et contre l'état de notre couronne, elle a attiré à soi le Mortimer, notre traître et ennemi mortel, prouvé, atteint et en plein parlement jugé. Et s'accompagne à lui en hôtel et dehors, en dépit de nous et de notre couronne, et des droitures de notre royaume. Et encore fait-elle pis, si elle peut, quand elle vous garde en compagnie de notre dit ennemi devant tout le monde, en très grand déshonneur et vilenie, et en préjudice des lois et usages du royaume d'Angleterre, que vous êtes souverainement tenu de sauver et maintenir. Il mandait également au roi Charles IV. Si votre sœur nous aimait et désirait être en notre compagnie, comme elle vous a dit et en a menti, sauf votre révérence, elle ne serait partie de nous sous prétexte de nous nourrir paix et amitié entre nous et vous, toute chose que je crus en bonne foi en l'envoyant vers vous. Mais vraiment, très cher frère, nous nous apercevons assez qu'elle ne nous aime mis, et la cause qu'elle donne, parlant de notre cher parent Hugh de Spencer, est feinte. Nous pensons que c'est désordonnée volonté quand, si ouvertement et notoirement, elle retient en son conseil notre traître et ennemi mortel, le Mortimer, et s'accompagne en hôtel et dehors à ce mauvais. Aussi vous devriez bien vouloir, très cher frère, qu'elle se châtiât et se comportât comme elle devrait faire pour l'honneur de tous ceux à qui elle tient. Veuillez nous faire connaître vos volontés de ce qu'il vous plaira de faire selon Dieu, raison et bonne foi, sans avoir regard à impulsion capricieuse de femme ou autre désir. »
Message de même teneur était envoyé à nouveau vers tous les horizons, au père, au dignitaire, au prélat, au pape lui-même. Les souverains d'Angleterre dénonçaient chacun l'amant de l'autre publiquement, et cette affaire de double ménage, de deux couples où se trouvaient trois hommes pour une seule femme, faisait la joie des cours d'Europe. Les amants de Paris n'avaient plus de ménagement à prendre. Plutôt que de chercher à feindre, Isabelle et Mortimer firent front et se montrèrent ensemble en toute occasion. Le comte de Kent, que sa femme avait rejoint, vivait en compagnie du couple illégitime. Pourquoi se serait-on soucié de respecter les apparences, dès lors que le roi lui-même mettait tant d'ardeur à publier son infortune? Les lettres d'Édouard n'avait réussi en somme qu'à établir l'évidence d'une liaison que chacun accepta comme fait accompli et immuable. Et toutes les épouses infidèles de penser qu'il existait une grâce particulière pour les reines, et qu'Isabelle avait bien de la chance que son mari fût bougre. Mais l'argent manquait. Plus aucune ressource ne parvenait aux émigrés dont les biens avaient été séquestrés. Et la petite cour anglaise de Paris vivait entièrement d'emprunt aux Lombards. À la fin de mars, il fallut faire appel une fois de plus au vieux Ptolémée. Il arriva chez la reine Isabelle accompagné du seigneur Boccas, qui représentait les Bardi. La reine et Mortimer, avec une grande affabilité, lui exprimèrent leurs besoins d'argent frais. Avec une égale affabilité et toutes les marques de chagrin, Messer Spinello Ptolémée refusa. Il avait pour cela de bons arguments. Il ouvrit son grand livre noir et montra les additions. Messire de Holspay, le lord de Cromwell, la reine Isabelle. Sur cette page-là, Ptolémée fit une profonde inclination de tête. Le comte de Kent et la comtesse, nouvelle révérence. Le lord Maltravers, lord Mortimer. Et puis sur quatre feuilles à la file, les dettes du roi Édouard Plantagenet lui-même. Roger Mortimer protesta. Les comptes du roi Édouard ne le concernaient pas.
Mais, my lord, dit Ptolémée. Pour nous, ce sont toujours tous ensemble les dettes de l'Angleterre. Je suis peiné de vous refuser, grandement peiné, et de décevoir si belle dame que madame la reine, mais c'est trop vous demander que d'attendre de moi ce que je n'ai plus, et que vous savez. Car cette fortune, qu'on dit nôtre, elle n'est faite ainsi que de créance. Mon bien, my lord, ce sont vos dettes. « Voyez, madame, continua-t-il, en se tournant vers la reine. Voyez, madame, ce que nous sommes, nous autres pauvres Lombards, toujours menacés, qui devons à chaque roi nouveau payer un don de joyeux avènement. Et combien en avons-nous payé, hélas, depuis 12 ans ? à qui, sous chaque roi, l'on retire le droit de bourgeoisie pour nous le faire acquitter par bonne taxe, et même deux fois si le règne est lent. Voyez cependant ce que nous faisons pour les royaumes. L'Angleterre coûte à nos compagnies 170 000 livres, le prix de ces sacres, de ces guerres, de ces discordes, madame. Voyez mon vieil âge. Je me reposerais depuis bien longtemps si je n'avais à courir sans cesse pour récupérer des créances qui nous resservent à aider d'autres besoins. On nous dit avaricieux, avides, et l'on ne songe point aux risques que nous prenons pour prêter à chacun et permettre aux princes de ce monde de continuer leurs affaires. Les prêtres s'occupent des petites gens, de faire aumônes mendiants et d'ouvrir hôpitaux pour les infortunés. Nous nous occupons des misères des grands. » Son âge lui permettait de s'exprimer de la sorte, et la douceur de son ton était telle qu'on ne pouvait s'offenser du discours. Tout en parlant, il lorgnait de son œil entrouvert un bijou qui brillait au col de la reine et qui était inscrit à crédit dans son livre au comte de Mortimer.